VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 novembre 2019. Avec vous de Washington, Claire Morin-Gibourg
et Anne Albertson.
Au sommaire de cette édition,
deux morts en Guinée après une marche organisée par l'opposition à Conakry.
Premières auditions au Sénégal dans une affaire de corruption présumée dans les hydrocarbures. Le nom d'un frère du président est cité.
Nouvelle attaque au Burkina Faso. 5 gendarmes et 5 civils ont été tués hier dans le nord.
Contestation en Irak. Les forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants.
Également, dans une dizaine de minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Dans l'actualité africaine, en Guinée, deux jeunes hommes sont morts hier à Conakry. C'était à l'occasion d'une marche organisée par l'opposition pour enterrer les Guinéens tués lors de récentes manifestations. La marche a dégénéré en de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre. Les précisions d'Irénée Herman Oumbo.
Des centaines de Guinéens ont défilé à pied et à moto dans le quartier de Bambeto derrière les cercueils couverts du drapeau national. Le cortège escandait des slogans du genre « Justice pour les morts » et « Alpha assassin ». Les affrontements avec la police ont éclaté sur le trajet entre la morgue et l'hôpital où les familles de l'opposition avaient récupéré les corps et la mosquée où était prévue la prière avant l'inhumation. Des groupes de jeunes ont affronté à coups de pierre les policiers et les gendarmes qui ont riposté avec du gaz lacrymogène et des dead projectiles anti-émeutes et à balles réelles selon plusieurs témoignages. Le Front National pour la Défense de la Constitution proteste contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé.
Au Sénégal, un juge d'instruction a procédé à ses premières auditions dans une affaire de corruption présumée dans les secteurs du pétrole et du gaz. Une affaire dans laquelle est cité le nom d'un frère du président sénégalais. Nous faisons le point avec Idriss Fall.
Au moins 3 personnes ont été entendues hier par un juge d'instruction à Dakar, dont le journaliste Mamadou Mout Bané et l'opposant député Mamadou Lamine Diallo, très critique vis-à-vis du frère du président. PetroTim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timmis, est au cœur d'un scandale. Selon une chaîne britannique, la société a versé une prime secrète de 250 000 dollars au frère du président Alu Sall, ce que celui-ci a démenti. Alu Sall, maire de Guédiawaï, a démissionné le 24 juin de la Caisse de dépôt et consignation, une institution financière qu'il dirigeait depuis 2 ans. Le gouvernement a ordonné une enquête. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a lancé en juin un appel à témoins pour que les détenteurs d'informations sur la gestion du pétrole et du gaz puissent les livrer à la justice. Ainsi, plusieurs personnes ont été auditionnées par la division des investigations criminelles, la police judiciaire. La DIC a remis son rapport au procureur qui a saisi un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire.
Au Burkina Faso, 5 gendarmes et au moins 5 civils ont été tués hier matin dans une attaque contre le détachement de gendarmerie de Oursi, localité située dans le nord, près de la frontière malienne. Cette attaque survient la veille d'une rencontre à Ouagadougou du Conseil des ministres du G5 Sahel, dont le Burkina Faso assure la présidence, sur la mise en œuvre des décisions prises lors d'un sommet extraordinaire tenu à la mi-septembre dans la capitale burkinabé.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé hier soir les Maliens à l'union sacrée derrière leur armée, alors que, selon lui, l'existence même du pays est en jeu après les attaques djihadistes les plus meurtrières subies depuis des années. Dans un message à la Nation, publié après un nouveau week-end meurtrier, le président malien souligne la gravité de la situation. Il met en garde contre la tentation de tomber dans le piège de l'ennemi qui, je le cite, est de nous opposer les uns aux autres et de saper le moral de nos vaillants combattants.
En tournée dans le Sahel, la ministre française des Armées, Florence Parly, a prôné hier la patience dans la guerre contre les djihadistes. À N'Djamena, au Tchad, la ministre a annoncé le coup d'envoi d'une opération Barkhane dans la zone des 3 frontières Burkina-Mali-Niger. Elle s'est ensuite envolée pour Ouagadougou, où elle a rencontré le président Marc-Christian Caboret.
En Algérie, une enquête a été ouverte après des échauffourées à l'intérieur d'un tribunal de la cour d'Oran. Dimanche, des magistrats voulaient empêcher la cérémonie d'installation de juges nouvellement affectés. Des gendarmes anti-émeutes sont intervenus, provoquant des accrochages. Un changement d'affectation soudain de 3000 magistrats a déclenché le 27 octobre une grève inédite et illimitée dans ce corps réputé docile à l'égard du pouvoir, paralysant la quasi-totalité des tribunaux du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, en Irak, la contestation a repris hier un tour violent avec des affrontements à Bagdad. Les forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants pour la première fois en 10 jours près du consulat iranien à Kerbala. Des détails avec Abdourahman Dia.
Hier soir, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants qui avançaient vers le siège de la télévision d'État à Bagdad. Des affrontements ont eu lieu également aux abords de rues menant vers l'ambassade d'Iran. Les manifestants ont jeté des pierres alors que les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes. Avant-hier nuit, 4 manifestants ont été tués alors qu'ils tentaient d'incendier le consulat iranien à Kerbala, ville sainte chiite au sud de Bagdad. À Najaf, l'autre ville sainte chiite, les manifestants ont symboliquement effacé le nom de la rue Imam Khomeini pour la renommée rue de la Révolution d'octobre. Depuis dimanche, la désobéissance civile paralyse les routes, les infrastructures pétrolières et les administrations. Depuis quelques jours, la colère des protestataires qui réclament la chute du régime se concentre sur l'Iran. Le général Qassem Soleimani, commandant des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, a multiplié les visites en Irak. Et les commentaires du guide suprême iranien Ali Khamenei, qui dénonce un complot américain et israélien, ont exacerbé la colère des Irakiens.
Au Liban aussi, la contestation s'est poursuivie hier pour le 19e jour consécutif. Les manifestants bloquant les routes et administrations publiques dans une mobilisation massive contre une classe dirigeante accusée de corruption et d'incompétence. Bagassikoura.
Hier soir, les manifestants ont encore afflué vers les lieux de rassemblement à Beyrouth, la capitale, ainsi qu'à Tripoli, la deuxième ville du pays dans le nord, et à Saïda dans le sud. Ils ont installé des barricades sur de nombreuses routes, se livrant au jeu du chat et de la souris avec la police anti-émeute. Durant les 2 premières semaines de ce mouvement, les banques, universités, écoles et de nombreux commerces ont été fermés. Ce soulèvement a entraîné la démission le 29 octobre du premier ministre Saad Hariri et de son gouvernement, qui gère les affaires courantes. Les contestataires réclament un changement de fond en comble du régime politique dominé depuis des décennies par les mêmes partis ou familles. Les Libanais sont aussi exaspérés par l'absence de services publics avec de graves pénuries d'eau et d'électricité et une gestion archaïque des déchets. Les manifestants maintiennent la pression dans l'espoir de voir émerger un nouveau gouvernement indépendant et compétent. Le président Michel Aoun doit engager des consultations en vue de désigner un nouveau premier ministre, mais jusque-là, aucune date n'a encore été annoncée pour le début de ces consultations.
Les États-Unis ont officialisé leur sortie de l'accord de Paris sur le climat. Conformément aux termes de l'accord, les États-Unis ont soumis une notification formelle de leur retrait aux Nations Unies. Le retrait sera effectif 1 an après la notification, a déclaré Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, dans un communiqué. Les États-Unis sont le seul pays à se désengager de ce texte, signé par 197 pays, y compris la Corée du Nord.
De nouveaux affrontements ont éclaté hier au Chili. Une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, parmi laquelle de nombreux étudiants, s'est rassemblée hier soir à Santiago, sur la Plaza Italia, lieu emblématique du mouvement de colère initié le 18 octobre. Ce mouvement de contestation populaire, qui est entré dans sa 3e semaine, reste massif malgré l'annonce de nombreuses mesures sociales.
En déplacement à Shanghai, Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui la Chine à consolider l'ouverture de son immense marché aux entreprises étrangères et à coopérer avec l'Europe pour lutter contre les tentations unilatérales. Le président chinois Xi Jinping, lui, a appelé à s'opposer fermement au protectionnisme et à l'unilatéralisme, alors que Pékin est engagé dans un bras de fer commercial avec Washington. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
œil à présent sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce matin avec Nanit Talani.
La Banque mondiale envisage d'accorder 5 milliards de dollars à la République démocratique du Congo. Cette aide est conditionnée aux engagements des autorités de Kinshasa à augmenter les revenus, combattre la corruption et améliorer la gestion des affaires de l'État. Certaines conditions posées par la banque concernent la libéralisation de l'économie, en particulier sur l'ouverture de l'approvisionnement en eau, en électricité et sur la couverture Internet. Le royaume d'Eswatini, ex-Swaziland, a présélectionné 13 producteurs indépendants d'énergie pour la mise en place de centrales solaires et à biomasse de 80 MW. Parmi les compagnies retenues figurent les Français Engie et EDF, le Britannique Globeleq, l'Allemand Innovant, le Canadien JCM Power et des entités locales telles que les Swatini Green Energy Consortium. Les centrales solaires devraient entrer en service d'ici 2020 et celles à biomasse en 2021. Pour terminer, la présidence nigériane a signé un amendement à la loi sur le pétrole qui prévoit d'augmenter la part des revenus du gouvernement par rapport aux compagnies pétrolières étrangères. Le nouvel amendement prévoit aussi le paiement de redevances calculées sur des bases fixes selon l'évolution du prix du baril ou de la profondeur des puits. Ce nouvel amendement pourrait rapporter 1,5 milliard de dollars au Nigeria d'ici 2021.
Et maintenant, notre page sport avec Yakuba Ouédraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
On connaîtra le dernier qualifié pour la phase de groupe en Coupe CAF ce soir.
Oui, ça se joue entre les Béninois d'Essaïe et les Sénégalais de Génération Foot. Le club de Cotonou s'est imposé 1-0 à l'aller au Sénégal. Pas de quoi emballer son entraîneur Bio Richa.
Nous préparons ce match avec beaucoup de sérénité. Nous essayons de ne pas nous affoler parce qu'il s'agit d'un match très capital pour nous. Et on a en face un adversaire difficile à jouer parce qu'il s'agit de l'équipe championne du Sénégal. Il va falloir que nous jouions en comptant sur nos valeurs, c'est-à-dire en comptant sur nos forces et mettre en place une stratégie qui nous permettra de contenir la velléité de l'adversaire.
Bio Richa, entraîneur du club béninois d'Essaïe, au micro d'Élisée Mpatine, notre correspondant au Bénin.
Le CHAN 2020 aura lieu en avril prochain.
La compétition est prévue pour se tenir du 4 au 25 avril 2020. Quatre sites ont été retenus par la CAF pour la grand-messe des footballeurs locaux. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le complexe de Japoma et le stade de la réunification à Douala et le stade Omnisport de Limbé. En 2017, le CHAN a eu lieu au Maroc et a été remporté par les Lions locaux de l'Atlas.
Ligue des champions UEFA ce soir.
Naples tentera de devenir la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale lors de la quatrième journée. Il faudra pour cela aux hommes de Carlo Ancelotti un succès contre Salzburg. Assorti à une victoire ou un match nul de Liverpool contre Genk. Les huitièmes sont aussi toutes proches pour Barcelone si les Catalans battent le Slavia Prague, mais il s'agira surtout pour Lionel Messi et ses partenaires de se remobiliser après un revers 3-1 à Levante le week-end écoulé. Dans le groupe des Blaugrana, la pression est plutôt sur les épaules de Dortmund et de l'Inter, à égalité avec 4 unités et qui s'affrontent ce soir en Allemagne. Chelsea voudra aussi se rapprocher davantage des huitièmes face à l'Ajax d'Amsterdam, vaincu chez lui 1-0 le 23 octobre.
Iker Casillas rechausse ses crampons.
Oui, le gardien de but du FC Porto, 38 ans, a rechaussé ses crampons 6 mois après avoir été victime d'un infarctus en mai. Iker Casillas a intégré le staff de son équipe pendant sa convalescence. « Je vais faire quelque chose de différent de ce que je faisais d'habitude, qui était d'être sur le terrain. Je vais essayer de faire de mon mieux pour aider mes coéquipiers », a déclaré Casillas. La figure du sport espagnol depuis le triplé historique Euro-Mondial-Euro, réussi par la Rora entre 2008 et 2012, a été aperçue au centre d'entraînement des Dragons à l'occasion de la reprise début juillet. Le FC Porto a engagé l'international argentin Agustin Marquezine pour le remplacer début août.
Merci Yakuba. Et pour compléter cette page sport, les résultats de la NBA, le championnat de basketball américain. Les Pistons de Détroit se sont inclinés face aux Wizards de Washington, 99 à 115. Les Rockets de Houston ont battu les Grizzlies de Memphis, 107 à 100. Les Pelicans de New Orleans n'ont pas pu contrer les Brooklyn Nets, 125 à 135. Les Bucks de Milwaukee ont largement dominé les Minnesota Timberwolves 134-106 et les 69ers de Philadelphie ont été battus par les Suns de Phoenix 109-114. Le match est toujours en cours pour les Trail Blazers de Portland face aux Golden State Warriors. Il y a 10 points d'écart, 111 pour les Warriors contre 101 pour les Trail Blazers.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Moragibour, toujours avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. En Guinée, des affrontements ont éclaté lundi à Conakry entre jeunes en colère et forces de l'ordre lors du transport vers le cimetière des corps de 11 jeunes tués pendant les manifestations organisées par des anti-troisième mandat. Nous vous en parlions en début de cette édition. Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Nous faisons le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Dans la cour de l'hôpital sino-guinéen, plusieurs dizaines de membres du Front National pour la défense de la Constitution. À quelques mètres des 11 cercueils, Seluda Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, répond aux questions des journalistes.
Monsieur Alpha Condé n'a pas voulu qu'il y ait un cortège à partir de l'hôpital Ignace Dine. Il s'était même permis, à la grande surprise de tout le monde, d'extraire les corps de la morgue et de venir les jeter dans la cour de cet hôpital. Les corps que vous voyez là, la plupart sont décomposés en raison de ce traitement inhumain que Alpha Condé leur a infligé.
Tous sont venus apporter leur soutien aux familles des victimes. Pour l'ancien Premier ministre Sidya Touré, c'est aussi une occasion de dénoncer.
Donc nous venons soutenir les familles, mais en même temps nous venons crier notre colère par le fait que des jeunes gens de 16 ans ont été abattus dans leur cour. Nous venons crier notre colère par le fait que les Guinéens doivent avoir le droit. Il y avait une volonté délibérée de tuer des gens, de les effrayer, de mettre une chape de plomb sur la Guinée. Ce qui ne se fera pas parce que nous ne l'accepterons jamais.
Selon une source officielle, les échauffourées ont commencé après la prière de 14h à la mosquée de Bambeto, quartier périphérique de Conakry. Deux personnes sont mortes, mais le communiqué du ministère guinéen de la Sécurité ne précise pas si elles ont été tuées par balle. Ce jeune raconte ce qu'il a vécu sur le chemin du cimetière.
Arrivé au niveau de Bambeto, les forces de l'ordre se sont mis à tirer à balles réelles. Du coup, j'étais avec ce monsieur, tout juste au rond-point, il a reçu la balle au cou. Du coup, je dis, mais on l'a tiré, il m'a dit, on m'a tiré. J'ai directement appelé une moto pour le prendre et amener à l'hôpital. On a pris une moto puis on l'a envoyé ici pour les premiers soins.
Plusieurs blessés ont été admis dans des cliniques plus proches, comme le témoigne ce médecin.
Pour le moment, nous avons reçu plusieurs blessés venus de différents quartiers aussi, qui sont au nombre de 5. Donc, un blessé grave qui a reçu une balle au niveau de l'épaule droite et deux autres qui ont reçu des balles aussi, un au niveau de la main droite et l'autre pied droit. Les autres, le quatrième qui a reçu un coup de pierre sur la tête et le cinquième qui a reçu un projectile, qui n'a pas pu définir réellement le type de projectile qu'il a reçu sur le front.
Depuis plusieurs semaines, le Front National pour la Défense de la Constitution organise des manifestations de rue en Guinée pour exiger du président Alpha Condé le renoncement à son projet de nouvelle constitution. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
9 otages philippins, tous membres de l'équipage d'un bateau, ont été enlevés au large du port de Cotonou. Hier encore, 4 personnes ont été enlevées près du port de Lomé au Togo. Ces incidents prouvent la montée de la piraterie dans le golfe de Guinée. Irénée Hermanoungbo a joint à Accra le colonel Abdourahmane Dieng, chef de la division de la sécurité maritime de la CDAO. Il nous parle des dispositifs mis en place par l'organisation régionale en vue de mieux contenir le phénomène.
La région est actuellement en montée en puissance en ce qui concerne la mise en place de son architecture de sécurité maritime. Nous avons déjà développé justement donc une série de zones, zone I, zone F et zone G, en éclatant justement donc l'épis de l'Afrique de l'Ouest en ces trois groupes. Et chacune justement, chacune des zones est actuellement gérée par un centre maritime multinational de coordination. Et donc, ces centres s'appuient sur les centres opérationnels des États qui, en retour, observent ce qui se passe au niveau donc de la mer et remonte justement donc ces informations. Et au-delà de cela, justement donc on est en train de développer des synergies qui permettent d'avoir des plans d'opération au niveau de chaque zone entre les marines afin que les zones soient patrouillées et que donc on puisse prévenir ces gens.
C'est une réalité aujourd'hui, une réalité inquiétante. Comment prévenir cette insécurité?
Nous avons mis en place une architecture de sécurité maritime qui va de l'Angola jusqu'au Sénégal et toute la frange côtière est divisée en zones et dans chaque zone on est en train de mettre en place un plan d'opération qui permet justement donc une synergie des moyens et donc de pouvoir patrouiller et de surveiller cette espace-là. Mais quand vous regardez bien, ce ne sont pas que les États qui interviennent dans ces parties-là. Nous avons tous les autres acteurs qui doivent être en mesure de jouer le jeu. Il y a une histoire de confiance qui va falloir justement donc développer entre l'industrie en général, les États qui doivent intervenir à temps, les centres d'utilisation maritime de coordination. Quand vous voyez des problèmes et que l'on essaie de trouver des solutions, on fonctionne comme les États. Et les criminels se mettent toujours à l'extérieur des systèmes pour continuer à opérer. Mais au fur et à mesure justement qu'on va voir les gars qui se posent devant nous, nous y porterons justement donc les éléments de réponse. Au moment où nous vous parlons, une opération est en train de se dérouler. L'ensemble des États membres de la CEDEAO, j'allais dire du Golfe de Guinée, sont actuellement mobilisés dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération Grand African Nemo, qui met en œuvre les marines de notre région avec la marine française, des marines d'autres pays partenaires qui viennent du monde entier. Et nous sommes en train justement donc de faire en sorte de naviguer et de monter justement donc des opérations combinées. Et dans le cadre de la sécurité,
c'était le colonel Abdourahmane Dieng, chef de la division de la sécurité maritime de la CEDEAO.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Situation sécuritaire difficile au Burkina Faso. Après un arrêt à N'Djamena, la ministre française des armées était hier à Ouagadougou. Elle a annoncé une nouvelle opération dénommée Bourgou 4 pour faire face au terrorisme. L'opération se tiendra dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina. Certains observateurs expriment leurs doutes. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Au lendemain de l'assassinat du maire de Djibo, Oumarou Diko, et de trois autres de ses compagnons, la ministre française des armées est à Ouagadougou. Elle a rendu hommage au maire, mais à toutes les victimes du terrorisme. La ministre estime que la lutte contre le terrorisme avance au Sahel, particulièrement au Burkina Faso. La ministre française des armées, Florence Parly.
J'ai également eu la possibilité de partager avec le président, au-delà des événements tragiques qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours ou de ces dernières semaines, les progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre le terrorisme, des progrès qui sont le fait de la collaboration qui se passe de façon très efficace entre Barkhane d'un côté et les forces armées burkinabé de l'autre.
La lutte contre le terrorisme doit continuer, d'où le lancement d'une nouvelle opération.
Le combat continue. Ce combat, il se mène ensemble aujourd'hui même avec le lancement d'une opération qui s'appelle Bourgou 4, qui est conduite par Barkhane, mais avec la contribution éminente de deux compagnies burkinabées et qui va se dérouler dans les prochains jours dans cette zone des trois frontières qui est la zone dans laquelle doit porter l'effort.
Mais selon les observateurs de la situation sécuritaire, cette opération Bourgou 4 ne saurait éradiquer le terrorisme dans le Sahel.
Une opération qui serait localisée dans les frontières des trois pays Mali, Burkina et Niger ne pourrait venir à bout que d'une fraction de ces organisations terroristes-là.
Siaka Koulibaly est analyste politique.
Il y en a qui sont localisés dans cette partie et qui agissent sur l'est de Burkina Faso, mais celles qui agissent à partir du nord, l'extrême nord du Mali, et qui sont aussi à la frontière de l'Algérie, il va peut-être être difficile de les éradiquer par la même opération Bourgou 4. Mais on attend de voir les détails de cette opération et surtout ses résultats pour savoir si cette opération ou s'il en faut plusieurs autres pour arriver à bout de la nébuleuse terroriste qui sévit au Burkina Faso.
La situation sécuritaire s'est nettement dégradée ces dernières semaines au Burkina Faso. Après l'assassinat dimanche du maire de Djibo dans le Sahel, 5 gendarmes ont été tués lundi par des terroristes à Oursi, toujours dans le Sahel, selon plusieurs sources sécuritaires. À VOA Afrique, Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Alors que la Chambre des représentants du Congrès poursuit son enquête pour la mise en accusation du président Donald Trump, les électeurs du Wisconsin sont très divisés sur la question. Le reportage de Ken Farabourg à Madison, le récit est de Michel Joseph.
Dans le Wisconsin, État que Donald Trump a remporté de justesse en 2016 et que démocrates et républicains considèrent essentiel pour remporter la présidentielle de 2020, les habitants affichent une pluralité de points de vue concernant l'enquête parlementaire. Pour Evan Carabas, 20 ans, directeur du numérique à l'Association des étudiants républicains de l'Université du Wisconsin à Madison, rien n'empêche le président Donald Trump de demander à l'Ukraine d'enquêter sur un potentiel rival politique. Il ajoute que le président ukrainien Zelensky a dit qu'il n'a subi aucune pression.
Je pense que les démocrates commencent à être un peu désespérés. Je sais qu'ils ne sont pas très confiants de pouvoir battre Trump en 2020. Ils vont donc essayer de le mettre en accusation dans l'espoir de lui faire une mauvaise publicité.
Bernadette Rainsford, une électrice du Wisconsin, n'est pas de cet avis. Pour elle, l'appel téléphonique du président Trump à son homologue ukrainien était loin d'être parfait, comme le soutient le chef de l'exécutif américain.
Je n'ai simplement pas confiance en ce qu'il dit et je ne pense pas qu'il utilise assez sa capacité de jugement lors de ses appels téléphoniques. Ils sont beaucoup trop importants pour être désinvoltes.
Charles Franklin, directeur des sondages de la faculté de droit de Marquette, prend chaque mois le pouls des électeurs du Wisconsin.
We've seen a little bit more opposition to impeachment hearings than support.
En ce moment, nous avons un peu plus d'opposition à ces audiences parlementaires que de soutien. C'est une très faible marge de 48 à 46% et une frange plus large s'oppose à la destitution avec 51% contre 40 à 43% pour. C'est un peu moins de soutien que certains sondages nationaux ont montré.
That's a little less support for either of those than some national polling has shown.
Le soutien ou l'opposition à la mise en accusation suivent les lignes de démarcation entre partis. Cette division s'affiche tout aussi nettement parmi les électeurs indépendants. William Clayton, électeur, est favorable à la mise en accusation du président Trump, mais il sait aussi qu'il sera difficile de gagner un procès devant un Sénat contrôlé par les républicains.
Je ne pense pas que les sénateurs républicains vont avoir assez de voix pour le faire partir, alors vous devrez le faire partir par les élections.
Pour Evan Carabas de l'Association des étudiants républicains,
sa base est vraiment enflammée et il a amassé des sommes records. Tant qu'il y aura la mise en accusation, la base restera enflammée et je ne peux que m'en réjouir.
Dans les sondages au Wisconsin, Donald Trump devance la plupart de ses potentiels rivaux démocrates pour les élections de 2020.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Anne Albertson était à la réalisation, Darrell Smith était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Anne Albertson. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24h sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com, sans oublier notre page Facebook bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.